Miruna Coca-Cosma.
Un nouvel attentat sur un marché de Noël en Allemagne. Deux personnes, dont un enfant, ont été tuées hier à Magdebourg, en Saxe-Anhalt. Un attentat à la voiture Bélier qui rappelle celui de 2016, Blandine Milson.
Quelques minutes après 19h hier soir, en effet, un homme au volant d'une BMW noire a utilisé un espace entre deux blocs de béton pour s'introduire sur le marché de Noël de Magdebourg. Il a foncé sur la foule et a réussi à rouler sur plus de 400 mètres en direction de l'hôtel de ville tout proche. Le conducteur a été arrêté par les forces de police. Il s'agit d'un homme de 50 ans, originaire d'Arabie Saoudite, qui serait arrivé en Allemagne en 2006 et n'était pas connu des services de renseignement comme islamiste. Selon le ministre-président du Land de Saxe-Anhalt, cet homme serait médecin, installé dans une ville proche de Magdebourg, et il aurait vraisemblablement agi seul. Peu après cette attaque, le quartier a été bouclé par crainte que son véhicule, une voiture de location, ne contienne des explosifs. Les hôpitaux de la région, notamment de la ville toute proche de Halle, ont envoyé ambulances et même hélicoptères en renfort au vu du nombre important de blessés. Cette attaque rappelle l'attentat du 19 décembre 2016 sur un marché de Noël de Berlin qui avait fait 13 morts. Blandine Milson, RTS, Berlin.
Suite à cette attaque, la présidente de la Confédération, Viola Amert, bouleversée, a indiqué que la Suisse se tenait aux côtés de l'Allemagne en cas en ces heures difficiles. Plusieurs capitales ont fait part de leur choc à l'image de Rome, Madrid et Washington, les États-Unis se disant prêts à fournir de l'aide. Le nouveau paquet d'accords avec l'Europe, présenté hier par le Conseil fédéral, suscite des réactions contrastées. Le gouvernement, l'économie ainsi que les partis de centre-droit y voient de grands progrès par rapport à l'accord cadre abandonné en 2021. Les syndicats et l'UDC, par contre, ne sont toujours pas satisfaits. Jean-Marc Heuberger.
Des concessions notables ont été obtenues par les négociateurs helvétiques. La Suisse pourra notamment continuer à décider de façon autonome si elle reprend ou non le droit européen dans les secteurs concernés par les accords bilatéraux. Elle pourra prendre des mesures si l'immigration pose des problèmes trop graves. Enfin, nos différends avec l'Union européenne ne seront pas tranchés par la Cour européenne de justice, mais par un tribunal arbitral paritaire. Malgré cela, l'UDC maintient son opposition. Elle dénonce un traité de soumission à une Union européenne en pleine crise. Les syndicats ne sont pas satisfaits non plus. Ils vilipendent un affaiblissement de la protection des salaires, car la Suisse devrait renoncer à certains garde-fous existants. Et les entreprises qui envoient des travailleurs pourront leur payer des frais inférieurs à ceux en vigueur en Suisse. Le Conseil fédéral promet certes des mesures internes pour compenser l'affaiblissement de la protection des salaires, mais il lui faudra déployer encore de grands efforts pour espérer rallier une majorité derrière ces nouveaux accords.
5 morts dans une frappe ukrainienne sur la région russe de Koursk, qualifiée de massive par le gouverneur régional. Elle a notamment touché un centre culturel, une école et des bâtiments résidentiels dans la ville de Rilsk. L'attaque survient quelques heures après des frappes russes sur Kiev qui ont fait un mort et endommagé plusieurs missions diplomatiques. Et puis à Tel Aviv, un projectile yéménite frappe la ville, faisant 16 blessés légers. Selon l'armée israélienne, le tir vient 2 jours après des bombardements israéliens contre des ports et l'infrastructure énergétique des Houthis au Yémen. Aux États-Unis, le shutdown évité de justesse cette nuit après 48 heures de chaos. Le Congrès a finalement adopté un budget qui n'inclut pas la mesure réclamée par Donald Trump. Malgré les menaces du président élu, le texte a été soutenu par une vaste majorité de républicains. Lubna Anaki.
Le président élu avait ordonné aux républicains de torpiller le projet de budget bipartisan dévoilé en milieu de semaine parce qu'il voulait un texte qui relève ou supprime le plafond de la dette. Donald Trump avait ainsi appelé les membres de son parti à voter contre tout texte qui ne répondrait pas à sa demande, quitte à ce que cela mène tout droit à une paralysie budgétaire. Que le shutdown arrive sous la présidence Biden plutôt que la mienne, avait notamment écrit Donald Trump. Mais après que la Chambre a rejeté un texte soutenu par le président élu, le chef de la majorité républicaine, Mike Johnson, a décidé qu'il valait mieux éviter un shutdown. C'est donc un texte réduit, mais sans aucune mesure sur la dette qui a été adopté hier. Sur les 219 représentants républicains, 170 ont voté pour. Un geste qui pourrait bien provoquer la colère de Donald Trump, qui préférait ne pas avoir à négocier la dette une fois au pouvoir. Lubna Anaki pour RTS Info, New York.
Suite et fin de ce shutdown, le Sénat américain vient lui aussi aussi d'adopter ce texte budgétaire peu avant 6h heure suisse. Cela évite donc la paralysie de l'État fédéral juste avant Noël. Et puis on reste aux États-Unis. Une nouvelle aide militaire américaine est accordée à Taïwan. 571 millions de dollars approuvés par Joe Biden. Cette décision intervient dans un contexte de tension croissante avec la Chine. Pékin a récemment déployé près de 90 navires autour de l'île, selon Taipei. Cette aide s'ajoute aux 567 millions de dollars déjà accordés en septembre. La Chine, qui considère Taïwan comme sa province, s'oppose fermement à ce soutien américain. On a soif, on a faim. Mayotte dans la détresse après le cyclone Chido. 6 jours après son passage, l'aide arrive au compte-gouttes. Emmanuel Macron, en visite sur place, a promis le raccordement partiel à l'eau dès aujourd'hui. Le bilan s'alourdit à 35 morts et 2500 blessés. Le président français annonce une loi spéciale pour rebâtir Mayotte, mais prévient pendant des mois, Mayotte ne vivra pas en situation normale. Et un mot de météo, temps nuageux et sec. Aujourd'hui, 5 degrés au maximum. Demain, pluie et neige en montagne. Température entre 4 et 8 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La RTS vous adresse ses meilleurs vœux. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Toutes nos voix vous souhaitent le bonheur.
Du bon pied, Delphine Torrance.
Chers et tendres, bonjour. Nous sommes le samedi 21 décembre, 355e jour de l'année. Solstice d'hiver, s'il en est, qui annonce le début de la saison. Et puis, plus surprenant dans le calendrier, mais c'est aussi la journée mondiale de l'orgasme. Alors, ne vous étouffez pas avec votre double expresso, même si je suis certaine qu'il a une autre saveur à l'écoute de mon énoncé. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me déployer sur le sujet si tôt le matin. Mais plutôt profiter de cette métaphore. Si cette célébration est officielle, c'est sur le pari qu'un nombre élevé de pensées positives, quasi simultanées, peut modifier le champ d'énergie et réduire en conséquence les niveaux de violence qui nous entourent. Et j'adore cette idée. Je vous propose même de participer à l'expérience. Bon, je vous laisse dans l'intimité de votre choix d'expression, mais sachez que je vais personnellement m'investir durant ces 3 prochaines heures pour délayer de la joie que j'espère communicative afin que cette période de fête vous soit énergétiquement positive. Thank you. si nous avons commencé avec Vivaldi et cette sonate pour violoncelle et basse continue interprétée par Andrés Gabetta, Sol Gabetta et le Capella Gabetta, tout ça, tous ensemble, en famille, le combo, eh ben nous allons quand même avoir quelques pointes de Noël dans cette émission, genre... Bon oui, des applaudissements ultra nourris pour ce chant des anges dans nos campagnes qui était interprété par la soprano Marie Lys avec Marie-Claude Chapuis, mezzo-soprano. Il y avait également Emiliano González Toro, le ténor, le baryton Christian Himmler, à la trompette Laurent Tingly, à l'orgue Nicolas Viat et à l'orgue positif Pierre Goy. Et c'était pour nous mettre dans l'ambiance de Noël ce matin. Thank you. Quelques notes de l'orgue de Kei Koito, de ses variations canoniques sur un chant de Noël pour orgue de Bach. Ouais, ça va faire hein, jusqu'à 10h.
Du bon pied, à la une, à la deux.
Mais on perd pas non plus nos bonnes habitudes avec aujourd'hui 3 informations culturelles à ne pas manquer durant cette semaine. Et on commence avec un film dont tout le monde parle, mais comme c'est une période de pause et qu'on a besoin de se faire du bien, il est absolument idéal. Hiver à Sokcho est adapté du roman de la jurassienne Elisa Sua du Sapin. Et on a gardé d'ailleurs le titre original. Ce roman paru il y a 8 ans aux éditions Zoé avait reçu un nombre de prix incommensurables, suisses et internationaux, avec qui avait été traduit d'ailleurs en 30 langues et en connaissait déjà une adaptation au théâtre. Si vous ne l'avez pas encore lu, en résumé, c'est l'histoire poétique d'une jeune coréenne, Suha, qui vit à Sokcho, c'est une petite ville balnéaire de Corée du Sud, et qui accueille dans la pension dans laquelle elle travaille un bédéiste français, Yann Kerran, qui est venu s'inspirer de l'endroit. Jusque-là, Elisa Sua du Sapin se refusait à en faire une adaptation au cinéma malgré plusieurs propositions. Mais là, c'est le combo gagnant. Déjà, c'est un premier long métrage pour le réalisateur franco-coréen Koya Kamura qui incarne la duplicité du personnage principal. La mannequin Bella Kim joue son premier rôle au cinéma, celui de Suha donc, et l'immense Roche Dizem qui amène toute sa maturité dans la peau du dessinateur égratigné. Et en parlant de dessin, vous apprécierez aussi l'insertion de séquences d'images d'animation sublimes réalisées par Agnès Patron dans le film. Un hiver à Sokcho, c'était déjà beau à lire avec un chat sur les genoux et une tasse de thé. Mais ce qui sera tout à fait savoureux en moment suspendu pendant cette période faste, c'est bien la version cinéma.
Oh oh.
Et pendant qu'on y est, qu'on cherche des moments de distraction, je vous conseille la série suisse Sugar, traduction française Blip. Poulet ou les flics. Quoi ? Bon, dans la quatrième dernière saison, elle est donc la dernière saison, est disponible sur Play RTS. En fait, vous êtes parés pour binger la totalité. Si vous n'avez jamais commencé, c'est parfait pour ces vacances et ça marche tout aussi bien avec un chat sur les genoux et une tasse de thé qu'avec des chips et une bière. Coproduite par la SRF et Shining Film, Sugar, c'est une balade dans la vie d'un poste de poliste au Valaisan, qui est inspiré du décor de Sal Cannon d'ailleurs, avec 2 flics maladroits, puérils, têtes brûlées, dans des enquêtes complètement barrées. Et si c'est savoureux en version originale, pour ceux qui maîtrisent, avec le sous-titre, ça garde tout son charme. La première saison avait démarré en 2021 en Suisse alémanique avec un succès immédiat. David Constantin, créateur et réalisateur de la série, y joue le rôle principal. Mais on y retrouve aussi des petits romans dans la troisième saison. Vincent Veillon et Vincent Cuchol qui ont immanquablement amené le public francophone, chaque saison ayant cumulé près d'1 million de mordus, qui est un record pour une production suisse. Ça va vous compter, j'en suis sûre et j'en suis même certaine, dès maintenant parmi eux. Le musée d'ethnographie de Genève et le label roman Flies, c'est ceci pour un livre passionnant et ça c'est une idée de cadeau. Si vous n'avez pas encore été faire vos cadeaux, celui-là pourrait être tout à fait adorable, abordable, enfin bref, de la bombe quoi. C'est joint donc, il y a un livre, joint un double album... qui raconte les chants et les traditions du mont Athos. Grâce à cet ouvrage multiple, on plonge en images et en musique dans cette péninsule monastique grecque dont les seuls instruments de musique sont les voix d'hommes et des maillets frappés contre différents supports en bois, appelés le sémantron. Ces chants avaient été enregistrés une première fois par l'ethnomusicologue genevois Samuel Bobovi en 1961 au monastère de Saint-Grégoire et faisaient partie des collections du MEG. Ces archives ainsi que tous les documents historiques de la péninsule forment un bouquin en 2 éditions bilingues, français-grec ou anglais-grec, que vous trouvez joint à un double album en format vinyle, digital et CD, où l'on retrouve les enregistrements de Samuel Bobovi et des plus récents réalisés par l'équipe de Flea, qui a d'ailleurs retrouvé un des moines de l'époque, le vénérable père Daniel de Skeet de Sainte-Anne, un petit ermitage du mont Athos. Mais sur cette deuxième version, on trouve des adaptations plus modernes avec des mix de divers musiciens électro internationaux. C'est totalement envoûtant. Athos, écho de la montagne sacrée, c'est à disposition à la commande sur le site du musée d'ethnographie de Genève ou chez Flea, et je vous propose, pour vous mettre dans l'ambiance, un extrait de ces chants syllabiques du mont Athos.
Oh.
Absolument somptueux ces chants grecs byzantins, qui étaient d'ailleurs interprétés par le chœur grec byzantin Satonde Buia. Et si nous continuions dans notre ambiance typique Noël? Alors oui, c'est dans 3 jours, nous sommes à la veille de Noël. En même temps, ça fait à peu près 1 mois qu'on a l'impression d'être à la veille de Noël. Alors laissez-moi avoir ce plaisir-là de partager avec vous toute la magie de ce que ça représente. Tout de suite avec le BBC Concert Orchestra de Londres pour cette suite de Noël pour instrument avant de Leroy Anderson. La semaine passée, je vous avais proposé de participer à la programmation de cette émission spéciale Noël. Enfin, je vous annonçais une programmation avec un petit peu de clochette. Et vous avez été nombreux, c'est-à-dire un, à me proposer un titre pour cette matinale autant que je l'emballe. Je remercie donc Brigitte et Eric des Acacias à Genève qui ont fait cette proposition tout à fait surprenante, mais que je partage très volontiers avec vous. Un titre de Jules Bocarne, le Belge, poète, écrivain fabuleux, malheureusement décédé, qui chantait autant en français qu'en wallon d'ailleurs, et qui a fait un titre qui s'appelle « Le Petit Jésus ». Tout à fait de circonstances pour l'occasion. Donc merci à Brigitte et Eric et on partage le petit Jésus de Bocarne ensemble maintenant.
Mon Dieu Seigneur, quelle affaire. C'était un beau petit enfant, c'était celui-là. Le petit Jésus. T'en rappelles-tu ? Note bien, il a tout changé sa tête. Ça dépend des églises. Tu vas le voir dans une église, n'est pas le même que dans l'autre, sais-tu. Il faut croire que des petits Jésus, il y en a autant qu'il y a d'églises. Hein? Mais quand tu regardes l'histoire, là, Le monde, il n'a pas de suite dans les idées, c'est vrai, ça faisait des milliers d'années qu'on l'attendait, tout le monde s'écrivait, attention les gars, il arrive, ce sera pas long. Il était attendu comme le messie, cet enfant-là. On penserait quand il serait venu au monde qu'on aurait dû refuser du monde, qu'il serait né à bureau fermé, ce serait comme un festival, c'est vrai, tout le monde criait, Hosanna, 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 il arrive, pas un chat. Deux petits moutons et un berger. Pourtant, un beau petit enfant comme celui-là, sais-tu, on n'en avait jamais vu. De belles petites crolles, de belles petites menottes, poussées, laridées, grandes dames, gens des yeux, petits couteaux, tout y était. Moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que cet enfant-là a eu l'idée de venir au monde en pleine nuit de Noël. Et même, il est tombé sur le premier Noël de toutes. Il n'a pas eu un cadeau. Il a braillé. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de cadeau, mais je voudrais bien t'y voir, moi, naître dans une étape, en pleine nuit de décembre. Pour avoir des cadeaux, il a été obligé d'attendre après les rois. Les rois mages. Les grands efflanqués de l'Écriture sainte, ils étaient partis 6 mois à l'avance sur 2 gros chameaux. Où c'est que vous allez? On s'en va porter des cadeaux à l'enfant Dieu. Allez-vous le trouver seulement? Y a qu'à suivre l'étoile. Mais il y en avait un maudit paquet d'étoiles, Koutek, la grande tourche Vega, Arcturus, la comète de Halley, tout le bazar. Ils sont tombés 10 fois de chemin, ils sont arrivés 10 jours en retard. Mais cet enfant-là aurait pu mourir d'une pneumonie en les attendant. Heureusement, ça, c'était pas écrit dans l'Évangile. Et puis voilà qu'ils arrivent avec leur cadeau. Mais devine un peu quel cadeau. De la myrrhe et de l'encens pour un bébé naissant. Et puis celle-ci. N'avait pas fait les magasins longtemps pour trouver ça, hein? De la myrrhe et de l'encens, n'aurait pas pu apporter des chaussons comme tout le monde. C'était bien que dans un sens, avec les 2 animaux qui étaient dans l'étape, un peu d'encens et un peu de myrrhe, ça n'a pas fait tort. Mais quand même, si j'avais été Saint-Joseph, je leur aurais parlé. Mais, pauvre Saint-Joseph, il n'avait pas la tête à ça, c'est sûr. N'en revenait pas encore. Il se demandait bien comment ça avait bien pu arriver. Enfin, il disait pourtant, je dis si pour rien. Et puis surtout, ce qui ne lui plaisait pas, c'était le bœuf qui le gardait tout le temps en riant. Notez bien, moi, personnellement, bien sûr, ce n'est pas Saint-Joseph que je plains le plus, c'est tu là-dedans, c'est la Vierge Marie. C'est pour elle que ça a été le plus pire. C'est elle qui a eu le plus difficile à passer outre de tout ça, c'est vrai. Une toute jeune fille, 18 ans, 17 ans, peut-être même 16 ans, on ne sait pas. Pas d'expérience, hein. Dans le temps, les filles ne sortaient pas. Il n'y avait pas des émissions de télévision pour t'expliquer comment ça se passait, hein. Quand le grand Gabriel est venu. Celui-là, il fait espé où ce qu'il se perdrait, sais-tu? Quand le grand Gabriel est venu, il a dit « Veux-tu, veux-tu, veux-tu ?» Elle a répondu « Oye, oye, dis-vous ben ?» Elle ne savait pas qu'après, il ne viendrait plus jamais, hein. C'est quand même malheureux. Même dans les anges, on ne peut plus avoir confiance. Ça, c'est malheureux.
tellement fragile et magique, cette harmonica de verre de Yenno Yando, que bah, vous avez peut-être connu si vous êtes amateur de Liszt. Il a fait un certain nombre de pièces qui s'appellent L'Arbre de Noël pour piano et harmonica, avec plusieurs mouvements. Là, nous venons d'entendre le cinquième, le Scherzo, donc interprété à l'harmonica de verre, alors qu'à la base, c'est quand même fait pour piano. C'était tout doux, c'était tout joyeux. Et là, alors bon, bah, on va mettre un petit peu reculé. Bon, je crois qu'on pouvait pas faire plus Noël que ça, Karim.
C'est un peu difficile, mais ainsi quand même votre guirlande sur votre micro.
Oui, mais ça vous a... Oui,
alors... Les auditrices et les auditeurs ne le voient pas.
Non, c'est vrai. Le pied du micro est enguirlandé dans une jolie guirlande blanche avec des boules de Noël qui pendent. C'est tout à fait pratique pour travailler. Ça fait une semaine que tous mes collègues, enfin 10 jours maintenant, on est tous à la même. Hein, on travaille sur le même micro. Donc c'était le Royal Philharmonic Orchestra avec les chanteurs de Cambridge pour ce « Accourez, fidèles, mais accourez donc !» de John Francis Wade. C'était super raccord. On va, une petite pause de Noël. Et vous savez, c'est comme après les biscuits, on a besoin d'un petit peu de saucisse, vous avez un petit peu de salé. Hein.
On va se faire l'étrange Noël de Monsieur Cervelas.
Oui, c'est parfait. Avec Mendelssohn, il fait très Cervelas. Donc, nous venons d'entendre le Minket Quartet pour cette interprétation du Scherzo en la mineur de 4 pièces pour 4 cuillères à cordes, opus 81 de Félix Mendelssohn, et c'est l'heure.
RTS Espace 2, Karim Karkeni,
le saltimbouquiniste.
Stalberg, lui aussi, avait connu Solveig, puisqu'il était membre du chœur de la paroisse. Il était de ceux qui devaient jouer l'oratorio. Il savait que l'idée était venue de Solveig Nordenson, et il se souvenait du silence impressionnant qui avait suivi sa proposition ce jour-là. Il se souvenait du sursaut qu'avait fait le chantre Yankee avant de la regarder, bouche bée. C'était après une répétition particulièrement mauvaise de quelques chansons faciles sur le printemps, au programme du concert qu'il pensait donner pour la fête de la Sainte Valpurgis. Yankee s'était dressé à la tribune d'orgue et s'était mis à halter tant qu'il en avait bavé par-dessus la balustrade, mouillant le tableau qui représentait Hackenspiegel, bouche grande ouverte pour un prêche ou une chanson. L'oratorio de Noël de Bach, nous.
Und siege vor ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Yankee était un bon musicien. Il était descendu de la région de Stockholm avec des projets plus grands que ce que le chœur de Sun était capable de réaliser. La nuit qui avait suivi la proposition de Solveig, incapable de dormir, il avait pris sa dernière fille sur ses épaules et était sorti faire les 100 pas dans le cimetière jusqu'à l'aube. Ses pieds étaient mouillés et il ne s'était aperçu qu'en rentrant qu'il était sorti en pantoufles, dans le gravier trempé par les pluies du printemps, et qu'il n'avait pas enfilé de manteau ni mis de couvre-chef, mais tout ça, c'était son problème. Le pire fut quand même la petite qui avait gelé dans sa chemise de nuit et s'en sortit avec une bronchite qui donna bien du souci à la famille jusqu'à la Saint-Jean. Le chantre Yankee avait compris ce que lassitude veut dire. À 43 ans, il n'avait jamais rien vu devenir ce qu'il avait espéré. La semaine suivante, il s'adressa aux membres du chœur. « Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir un grand musicien. Je formais l'espoir puéril de devenir chef d'orchestre, de parcourir l'Europe de ville en ville et de faire danser les chœurs et les orchestres au rythme de ma baguette. Il n'en a pas été ainsi, je me suis retrouvé ici. » Vous êtes un mauvais cœur et ce n'est pas votre faute, mais celle de la société. La musique ne veut rien dire pour la plupart d'entre vous. Je m'estime tout simplement heureux qu'au moins quelqu'un vienne ici. À l'exception de toi, Solveig, nous sommes tous médiocres, parce que nos buts sont médiocres. Mais je viens de prendre une décision. Ceux qui seront avec moi vont trimer dur. Mais je vous en fais le serment. Dans 10 ans, ici, en l'église de Sun, nous jouerons l'oratorio de Noël de Bach. Ce sera l'œuvre de ma vie. Ce n'est peut-être pas de ce que je rêvais au début, mais compte tenu des circonstances, cela suffira. 10 ans, c'est beaucoup. Vos enfants seront devenus adultes, certains se seront lassés. Mais permettez-nous d'entrer, quelques fois par semaine, morceau par morceau, mesure après mesure, d'entrer à force de travail dans l'univers musical que créa Bach. Je vais essayer de réquisitionner des musiciens d'orchestre de village et d'autres joueurs d'instruments avant. Je vais faire travailler les jeunes, nous y arriverons. Êtes-vous avec moi ? C'est un passage situé plutôt au début de l'oratorio de Noël de Göran Tunström, prodigieux romancier suédois. Ce livre est paru en 83 en Norvège et puis en 87, je vais redevenir vaudois, chez Actes Sud en français. Et Solveig, dont il est question, cette musicienne, va mourir écrasée par des vaches alors qu'elle part à une répétition avec son fils. Et c'est son fils qui est sur le vélo et qui évidemment va porter aussi non seulement la douleur de la mort de sa mère, mais une part de culpabilité, qui commence une narration qui s'étend entre les époques et les voix, avec quelque chose d'un oratorio justement, plein de tableaux très forts qui restent. Quand Delphine m'a demandé une chronique de Noël, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et puis j'avais envie de relire ce roman depuis 20 ans. Et j'ai bien fait. J'ai de nouveau été emparé. Il faut une 60aine de pages pour véritablement rentrer dans cette narration un petit peu confuse et éclatée. Et puis tout à coup, on arrive dans quelque chose qui est prodigieux parce que ça mélange le bois Antounès et Cabré, cette manière d'être sur plusieurs niveaux de réalité et de temporalité, et en même temps la magie des images de quelqu'un comme Alessandro Baricco. Donc l'oratorio de Noël de Göran Tunström, vraiment
à aller y voir de plus près. Un des personnages qui apparaît, donc on se trouve au début du XXe siècle, dans la commune de Sunne, où est né Göran Tunström, près du manoir de Marbacka. Le manoir de Marbacka est devenu légendaire, c'est là qu'a vécu Selma Lagerlöf. Elle, deuxième moitié du 19e et première moitié du 20e siècle, et puis elle a été première femme, prix Nobel de littérature en 1909. Elle est entrée à l'Académie suédoise en 1914 et puis elle a marqué beaucoup les enfants, notamment grâce au, au merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, dont vous avez sans doute entendu parler. Et puis ce conte, roman, récit merveilleux, son histoire est assez folle parce que c'est une commande en fait. Les enseignantes et les enseignants suédois ont demandé à Selma Lagerlöf d'écrire une introduction à la géographie de ce pays qu'est la Suède. Et puis ça a donné cette histoire qui vous embarque comme ça, dos d'oiseau. Et puis il y a un petit livre de Selma Lagerlöf, un petit clin d'œil aussi à Noël, qui s'intitule « Le livre de Noël », suite de petits récits, et notamment le premier qui donne son titre au recueil, où Selma se rappelle enfant à Noël, où elle raconte un petit peu comment c'était très ritualisé. Voilà, on est aussi dans ce protestantisme très rigoureux qu'il y avait en Suède. Et puis, elle, le seul cadeau qui l'intéresse, c'est les livres, parce qu'elle est déjà passionnée de lecture. Et puis c'est un Noël où apparemment on lui a fait plein de cadeaux, sauf un livre, et puis elle est très déboussolée. Finalement un livre apparaîtra et je vous laisserai aller découvrir lequel, c'est aussi très surprenant et puis ça lui a ouvert pas mal de portes. Aujourd'hui nous sommes le 21 décembre, j'ai appris avec bonheur grâce à Delphine que c'est le jour mondial de l'orgasme. Eh bien je suis sûr que ça réjouit Maurice Chapa. Dans Le Bleu, il aurait eu, figurez-vous, 108 ans aujourd'hui même. Et puis Maurice Chapa, voilà, c'est cet homme qui pour moi est venu titiller mon âme de poète il y a très longtemps. Et puis c'était évidemment aussi le compagnon de vie de Corinne Aby, cette écrivaine prodigieuse qui a réussi à élever ses enfants, à avoir une vie de femme de la deuxième moitié du XXe siècle, s'impliquant beaucoup pour les autres, dénonçant à tour de bras tout ce qu'elle apprenait de violence parce qu'elle pouvait le faire, elle qui était une fille de la bonne société, fille d'Edmond Bee, peintre et incroyable. Et elle est décédée en 79. Maurice Chapa, une dizaine d'années après, lui a consacré un livre qui s'intitule Le Livre de C. Je vais vous en lire l'introduction et puis ensuite on se quittera avec Aurélie Emery qui a consacré un magnifique album à la poésie de Corinne Aby. Le ver luisant. Où est Corinna ? Son regard persiste. Un mouvement irrésistible me pousse à nous ajouter un ciel alors que je sais que la vie quotidienne avec ses œuvres est encore et toujours plus profonde. C'est le fait d'une douleur et d'une dette qui sublime l'autre, lui enlève les limites. On est emporté, et répétitivement et sans fin. Contre sa raison même, on tentera de passer outre entre un abîme et l'étoile qui nous manque. On cherche à se réengendrer dans l'être perdu qui est littéralement notre vie. Chaque camp espère un signe. Vos secrets se posent sur nos visages. Dans la déchirure, j'ai oublié les enfants, si présents en elle, avec elle. Je me suis isolé à la pointe d'une apparition-disparition. Qu'est-ce qu'une idéalisation ? C'est la photographie de ce que nous découvre la mort, en chacun. La flamme d'amour incréée que ce passant a portée, et c'est cette flamme qui nous brûle. Or elle surgit et nourrit uniquement d'histoires terrestres, vraies et inventées. L'univers nous habite. Corinne Aby est un écrivain qui gratte l'ange de carte postale et précède l'ange tout court. Traverser les prairies.
avais-je une chevelure de sapin noir ou un torse? Un torse.
C'était une proposition donc de Karim encore en studio, cette Emery, Aurélie Emery.
Oui, qui faisait partie, enfin, qui fait partie de Berceuse dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Berceuse qui a joué son dernier concert hier soir à la Tour Vagabonde. J'aurais vraiment voulu y aller, mais c'est vrai que c'est souvent assez dense avant Noël. Donc,
je vois pas du tout, mais je pense que personne ici et tous ceux qui nous écoutent ne voient pas du tout de quoi vous parlez. Dense, ça veut dire quoi, dense? Avec un A ou avec un
mais
E?
Les deux, les danse. Deux, bah, évidemment, voilà. C'est ça qui nous sauve.
D'ailleurs, si vous voulez retrouver Karim, j'en profite pour faire un petit peu de promo. Hein. C'est Noël, c'est votre cadeau.
Adorable,
on vous retrouve à la boutique du livre à Neuchâtel. Alors, c'est là où vous allez trouver tous les derniers cadeaux dont vous avez besoin, parce que je suis sûre que vous n'avez pas encore tous vos cadeaux. Et en plus, vous aurez des conseils personnalisés par Karim Karkeni, qui vous attend donc à la boutique du livre à Neuchâtel et qui fera peut-être des lectures de Noël là-bas aussi.
Probablement un lieu bas aussi.
Oh, trop bien! Vous yodelez? Non, mais sérieusement, alors attendez là, parce que vous avez 20 secondes pour me faire une démonstration.
Hein. Ah non, là, c'est impossible, j'ai pas mes Ricolas.
Non, mais c'est n'importe quoi.
J'ai perdu mon rire, je peux pas yodeler.
Alors ça, perdre votre rire, c'est pas possible. On vous souhaite de très très belles fêtes, Karim. La suite,
merci,
c'est sur RTS Espace 2, bien sûr, c'est les infos tout de suite. Puis on va continuer dans l'ambiance.